début d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée jusqu'à jeudi à l'espace mesuré, l'espace représenté, bref, à l'histoire de la cartographie. Mais comme tous les lundis, trois temps dans l'émission de ce matin, après un nouvel épisode, le 30e de notre feuilleton sur la guerre froide, Miranda Spiller, diplômée de Harvard et de Columbia et professeure à l'American University de Paris, nous présentera son travail sur la citoyenneté française de 1780 à 1880 à travers l'exemple de la Guyane. Ce travail est publié chez Alma et s'intitule « Liberté, liberté trahie, faire et défaire des citoyens français ». Puis en ouverture d'une semaine, justement sur la cartographie et son histoire, le géographe Jean-Paul Amat, professeur émérite de géographie à Paris-Sorbonne et président de la Société des Amis du Musée de l'Armée, nous présentera le travail qu'il a accompli pour les cartigènes de la Grande Guerre, mais expliquera aussi ce qu'est la biogéographie historique qu'il applique, par exemple, aux forêts de la Grande Guerre. Tout de suite, donc, 30e épisode de la Fabrique de la Grande Guerre, de la Guerre froide par Anaïs Quien. Nadège Ragaru nous explique ce qu'est la rupture entre Staline et Tito en 1948.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada are all directly by this evil power.
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide.
Ako misle da su nestali mrtvi svedoci, ti grobovi su još sveži. Neka ne misle da će zašutiti živi svedoci koji još ovde postoje i koji će nema uvijek reći, ne dozvoljavamo dirati u našu zemlju.
Dans ce film d'archives, le maréchal Tito affirme l'indépendance de la Yougoslavie, son pays. Le héros de la résistance communiste au nazisme dans les Balkans affiche une autonomie bien gênante au sein du bloc de l'Est en cours de formation. Le 28 juin 1948, le Cominform se réunit pour statuer sur son sort au sein de l'alliance de l'URSS et de ses satellites.
Cette réunion est une réunion au terme de laquelle il est décidé d'exclure la Yougoslavie.
Nadège Ragaru.
Ce qui va marquer le début d'un des plus grands événements de la guerre froide, à savoir le schisme entre Tito et Staline. Il fait en fait suite à une succession de courriers qui avaient été échangés au cours du printemps 1948 entre le Parti communiste soviétique et le Parti communiste yougoslave, avec un degré d'acrimonie qui était allé croissant. Les reproches qui étaient adressés au parti yougoslave étaient notamment de ne pas être suffisamment ardent dans la mise en œuvre du communisme selon la voie soviétique. Il était aussi de ne pas suivre précisément la ligne du soviétisme. Il était enfin d'avoir voulu mettre en exergue une autonomie décisionnelle trop importante. Or, l'élément qui peut surprendre ici, c'est que de fait, la Yougoslavie s'était distinguée dès l'après-Seconde Guerre mondiale par un volontarisme extrême dans le façonnage du socialisme. C'était un pays qui, dès le mois d'août 1945, avait adopté une réforme agraire, qui, dès l'automne 1945, avait décidé d'abolir la monarchie, qui, en janvier 1946, adoptait une nouvelle constitution, et qui, un an plus tard, décidait de lancer un plan quinquennal. On était donc a priori par excellence en présence d'un bon élève de ce qui allait devenir le bloc, ce qui d'ailleurs avait été signifié par le fait de décider de donner pour siège au Cominform la ville de Belgrade. La surprise est donc extrême. Sur le plan diplomatique, en fait, la Yougoslavie avait eu l'ambition à la fois de mettre en place une fédération avec la Bulgarie, mais qui aurait pu éventuellement être élargie au-delà. Or, ce projet de fédération pouvait représenter un levier pour Tito afin d'asseoir son autorité sur les Balkans, ce qui était vu avec une certaine prudence, voire un certain scepticisme par Staline. Et dans le même temps, Tito avait montré des ambitions très fortes de satellisation, voire à terme d'incorporation de l'Albanie à son territoire, et dans le cadre de cette politique d'influence, soutenait également la guerre civile en Grèce. Pour Staline, il fallait réussir à signifier qu'il était le seul à incarner l'autorité au sein du bloc et qu'aucun petit chef ne pourrait s'imposer comme proposant un leadership alternatif. Cela était d'autant plus important que nous étions dans ce moment 1948, où avec la dégradation de la situation autour de Berlin, il importait de réussir à éviter toute forme de décision qui pourrait être prise sans concertation et sans conférer à Staline l'autorité première.
Et qui est ce maréchal Tito ?
Ce maréchal Tito est un personnage assez fascinant, alors qu'il a parfois été décrit par des biographes ultérieurs ayant fait défection comme étant plus falot et moins ardent qu'on ne l'a pensé très longtemps. C'est quelqu'un qui a tenu dans les années 30, il a connu les purges soviétiques, il a été nommé responsable du Parti communiste en 1937, il est convaincu de son autorité, de sa fermeté dans la compréhension du marxisme, il est sûr de tenir une voie juste, il est auréolé de l'aura de la lutte des partisans pendant la Seconde Guerre mondiale et du fait que la Yougoslavie est quasiment l'un des rares ou seuls États en Europe à s'être libéré, entre guillemets, presque par lui-même, avec une contribution plus mineure de l'armée rouge. Et il est engagé dans l'édification d'un régime et d'un ordre auquel il croit, avec ce moment de l'élan révolutionnaire qui lui permet de penser que puisque la Yougoslavie a tenu tête aux nazis et a un démantèlement et des 5 zones d'occupation, elle pourra aussi tenir tête à Staline.
Et quelle va être la réaction des observateurs internationaux et peut-être de ce qui est en train de devenir le bloc de l'Ouest ?
Alors là, on a maintenant accès à des documents intéressants de la CIA, qui sont des documents qui montrent de quelle manière se met en place, d'une part, un réseau d'informateurs pour se documenter sur la situation en Yougoslavie et dans les Balkans, et d'autre part, le fait que, à la fois dans le champ diplomatique et celui du renseignement, au printemps 1948, on se rend compte qu'il y a quelques changements au sein du comité central yougoslave, qu'il y a donc des désaccords internes, mais nul n'anticipe une rupture, notamment en raison de ce caractère exemplaire du socialisme yougoslave, mais aussi du fait que la Yougoslavie s'est affichée et affirmée comme un État vigoureusement anti-américain. Donc au moment des événements de juin 1948, l'ambassade à Belgrade est un tout petit peu hésitante, alors que l'un des premiers rapports de la CIA, daté du 1er juillet 1948, signifie que nous sommes en présence de l'événement le plus important depuis 15 ans dans l'histoire du communisme international. Donc il y aura assez vite une prise de conscience de l'importance de l'enjeu, mais il faut attendre quelques mois, voire un an et demi, avant que les États-Unis ne parviennent à définir une forme de réponse plus systématique à la modification de l'espace géopolitique. Pour qu'elle puisse le faire, elle va prendre acte du fait que la Yougoslavie sollicite une aide économique à la Commission des Nations Unies pour l'Europe, la Commission économique, dès l'automne 1948. Et au cours de l'année 1949, sollicite directement une aide économique américaine auprès notamment de la Banque Import-Export. Dans ce contexte-là, les États-Unis très vite se disent que, alors que se durcissent les clivages de la guerre froide, trouver une fissure peut être pertinent, qu'il faut aider Tito à tenir, et qu'il faut éventuellement encourager l'émergence d'autres petits Tito. Cela se traduira par l'investissement dans un partenariat sur le plan militaire, avec des livraisons qui sont plutôt d'armes légères en 1950, mais aussi le tissage de relations dans le domaine du renseignement, et véritablement avec un basculement certain sur la centralité d'une facilitation de clivage au sein du bloc de l'Est au moment de la guerre de Corée. Puisque au moment de la guerre de Corée, il devient clair pour les États-Unis qu'il y a des risques de bouleversement de l'ensemble des équilibres internationaux et qu'il lui faut, partout où elle le peut, parvenir à sécuriser des espaces. Et la Méditerranée, de ce point de vue, est un des sites stratégiques.
Ce 30e épisode de la Fabrique de la Guerre Froide, donc préparé par Anaïs Quien, vous pouvez le retrouver sur le site internet séparément de la Fabrique de l'Histoire de ce jour et vous pouvez le télécharger pour garder avec vous l'ensemble de cette série autour de la Guerre Froide. Mais tout de suite, nous allons changer d'espace, partir loin de l'Europe, mais néanmoins dans un territoire qui est encore européen, puisqu'on y circule, la monnaie qui y circule, c'est l'euro, et vous entendez derrière moi la forêt guyanaise. tout à l'heure, on parlera de la forêt de la Grande Guerre avec notre invité de la seconde partie. Mais tout de suite, Miranda Spiller, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de la Guyane qui est au cœur de cet ouvrage, donc qui vient tout juste d'être traduit en français. Liberté, liberté trahie, faire et défaire des citoyens français. Guyane 1780-1880. Qu'a donc de si particulier ce territoire, la Guyane, pour que vous y consacriez un livre qui est en fait un livre sur la citoyenneté française, justement passée au tamis au travers de l'exemple guyanais?
Oui, il y a plusieurs thèmes qui sont au centre du livre. D'abord, j'étais très intéressée par le fait que les grands moments de liberté en Guyane coïncident toujours dans l'histoire avec les moments de déportation et d'exil. Donc, à deux reprises, on trouve dans le livre, il y a pendant la Révolution, la déportation des ennemis politiques coïncide avec la première abolition de l'esclavage. Et au 19e siècle, il y a le deuxième affranchissement des esclaves qui coïncide avec l'installation d'un bagne. 4 ans après. Donc j'étais très intéressée par ce problème.
Par cette concomitance, voilà. cette relation entre les deux, liberté d'un côté et enfermement ou disons oui. moindre citoyenneté de l'autre.
Oui, il me semblait très important d'aborder cette contradiction ici parce qu'on trouve dans l'histoire de la Guyane une tendance vers la fragmentation de l'histoire. Soit on écrit l'histoire des gens qui étaient esclaves et après libres, ou on écrit l'histoire des bagnes. Donc, mon ambition dans cet ouvrage était de mettre ces deux thèmes
ensemble.
Voilà.
Alors donc, vous choisissez ce territoire guyanais, et quand on vous lit, on s'aperçoit effectivement que cette question est une question importante, puisque vous y expliquez que, alors que on pense généralement que l'âge des Lumières est l'âge de la découverte du monde, en tout cas par les Européens, puisque ce monde est déjà occupé par tous les autres, mais néanmoins, donc, la découverte du monde est une sorte d'éclaircissement de ce qu'est le monde, vous dites que c'est pire pour la Guyane que pour d'autres territoires, puisque, en fait, au moment même où arrive cet âge des Lumières, eh bien, le pays devient presque plus inconnu qu'il ne l'était auparavant.
Oui, c'est vrai. Les premiers explorateurs dépendaient des Indiens. Avec la disparition des Indiens, il n'était plus possible d'explorer le pays. Donc, il fallait attendre le XXe siècle pour avoir des avions et des radios pour explorer à nouveau le pays.
Oui, et donc, ce pays est assez inconnu. On y dit en gros... les révolutionnaires ou les hommes du XVIIIe siècle disent qu'il n'y a personne, en gros qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut sur ce territoire et que ce territoire, ça va devenir une sorte de rêve, pourrait-on dire, ou de cauchemar métropolitain pour pouvoir s'en servir, en particulier pour déporter des gens. Ça sera une des questions fondamentales pendant la Révolution française, mais également après, tout au long du XIXe siècle, Miranda Spiller.
Oui, c'est vrai. Je lutte dans le livre contre la notion d'une terre vierge, parce qu'il est très facile de voir la Guyane, qui est toujours très peu peuplée, comme un terrain où tout est possible. Pourtant, c'est une très ancienne colonie de la France et je remarque qu'il y a des structures assez complexes, très modernes, qui se développent. Mais ces structures, comme je montre dans le livre, sont des structures souvent juridiques qui ne se montrent pas à l'œil. Donc ça, c'était la
qui ne se voit pas sur une carte d'une certaine façon. Même si une des questions essentielles, dites-vous, c'est quand on prend possession d'un territoire, c'est d'en dessiner la carte et que toute la question du 19e siècle, ça va être de dessiner la carte d'une certaine façon de cette Guyane qu'on connaît mal, qu'on croit connaître, mais qu'on connaît mal au bout du compte, Miranda Spiller.
Et je crois aussi que le droit est aussi une manière de construire la carte, dans le sens que les droits qu'on a rend possible un certain pouvoir de construire, d'acheter, de vendre, de produire une famille. Donc, dans le livre, ce qui m'a frappé était l'impuissance des sujets historiques à faire leur vie en Guyane. Et je pense que ça a eu une très grande importance sur la carte, finalement, de la Guyane coloniale.
Oui, alors, vous racontez aussi, et cela, on le sait moins, que dès le moment révolutionnaire, eh bien, et même avant, on se demande ce qu'on va faire de tous ces personnages qui sont les sans-aveux, comme on le dit sur le territoire métropolitain. Par exemple, ces galériens qui sortent des galères, mais qui n'ont pas de domicile fixe. Et comme ils n'ont pas de domicile fixe, ils sont sans-aveux. Donc, ils circulent, mais on interdit le vagabondage sur le territoire métropolitain. Que va-t-on faire de ces gens-là? Et on réfléchit de temps en temps dans la tête des juristes ou dans la tête des hommes politiques de l'époque à les envoyer ailleurs. Alors c'est la transportation, c'est la déportation. On réfléchit par exemple à en envoyer à Madagascar, puisqu'on a quelques comptoirs à Madagascar, en Afrique, dans des terres vierges dans lesquelles on ne sait pas très bien quoi faire, ou en Guyane. Et tout compte fait, cette solution guyanaise va être appliquée assez rapidement pendant la Révolution française, expliquez-vous, en particulier pour les prêtres réfractaires.
Oui, ce qui m'a frappé dans leur histoire, c'était le fait qu'il fallait transformer leur statut juridique avant de les envoyer ailleurs. Et finalement, la plupart de ces prêtres restent à l'intérieur de la République, mais ils sont censés être ailleurs. Et dans une certaine manière, ils sont ailleurs. Ils étaient mis à l'écart, ils sont dans les prisons avec le statut de
déporté.
De déporté, mais surtout de mort civile.
Oui, parce que expliquez-nous justement comment votre travail s'est mené pour pouvoir arriver à déterminer ce qu'il en était de la mort civile, de la déportation et de la relation entre les deux, par exemple, puisqu'on peut être d'une certaine façon mort civilement, donc théoriquement ne pas avoir de droit sur le territoire métropolitain, mais y rester tout de même, et d'autres, peut-être les moins chanceux, puisque certains, la plupart d'entre eux mourront dans cette déportation, se retrouver sur ce territoire guyanais dès les années 1790, Miranda Spiller.
Il n'y avait rien de systématique dans la déportation des prêtres pendant la Révolution, et il y a très peu, il y a plusieurs centaines qui arrivent. Mais ce qui se passe au 19e siècle est sur une échelle entièrement différente. Ce qui est important à propos des prêtres, et que leur expérience en Guyane, ceux qui vont y aller, dépend, à mon avis, de leur relation imaginée avec les affranchis dans la colonie. Et le besoin de les isoler et de les punir vient d'une peur générale chez des Blancs que des prêtres vont soulever les Noirs pour refaire... un nouveau Saint-Domingue,
oui,
essentiellement.
Alors ça, évidemment, on a déjà beaucoup discuté ici même de l'influence de la révolution de Saint-Domingue sur l'ensemble de cet espace géographique caribéen au XVIIIe siècle. Mais ce qui est très intéressant, ce que vous démontrez très bien dans Liberté, Liberté trahie, Miranda Spiller, c'est la question juridique, la façon dont on va décider juridiquement si le territoire guyanais appartient de plein droit à la République, s'il est égal à la métropole ou s'il ne l'est pas. Et on voit toutes ces hésitations, toutes ces discussions, puisque certains disent, bien sûr, on va en faire un département comme les autres départements et il aura les mêmes droits que le territoire métropolitain. Et d'autres disent, mais non, il ne peut pas avoir le même droit parce que c'est un territoire à part. Et tout cela va orienter, pourrait-on dire, toute la réflexion du 19e siècle sur ce territoire guyanais. Et c'est ce que vous expliquez dans votre livre.
Oui, c'est vrai. Pendant la Révolution, mais la Guyane n'est pas spécifique dans cette manière, dans le sens que toutes les colonies d'outre-mer sont le sujet d'un grand débat sur leur statut juridique et politique. Et c'est vrai que après l'affranchissement des esclaves, il y a très peu de volonté de vraiment de les intégrer dans la République de façon politique. Et cette réservation, cette manque d'enthousiasme va perdurer pendant le 19e siècle et va faire que les colonies, pour la plupart, sont hors du droit commun et hors du droit constitutionnel de la France.
Alors, on y découvre des textes absolument terribles, celui de la société de Jocelyn dans le Morbihan, qui en 1794 dit « purger le territoire de la République de tous ses ennemis intérieurs, envoyer cette exécrable cargaison de suspects à Madagascar, la terre des hommes libres ne doit pas être souillée par la présence d'esclaves, puisqu'on les considère comme des esclaves, puisqu'ils ont trahi d'une certaine façon la Révolution », mais bien d'autres termes comme celui de Antoine Boulay de la Meurthe qui parle de cette peine de la déportation. Le triomphe des républicains ne sera souillé par aucune goutte de sang. La déportation doit être désormais le grand moyen de salut pour la République. C'est par là que nous viendrons à bout de nous débarrasser des émigrés et des prêtres qui ne veulent pas du régime de la liberté. Donc une véritable profusion, pourrait-on dire, sur laquelle vous travaillez, profusion législative, profusion d'édits, de décrets, qui permettent de se dire, est-ce qu'on est dans le territoire de la République ou est-ce qu'on ne l'est pas, Miranda Spiller?
Oui, pourtant, en Guyane, les affranchis pensent être citoyens, ils sont appelés des citoyens, et en principe, la Guyane, pendant cette même période, est un département de la France. Comme je montre dans le livre aussi, il y a des contradictions qui suivent le statut, dans le sens que il y a pas mal de négriers qui sont saisis par la République.
De navires négriers. Et on pense d'ailleurs, on les amène sur les côtes de Guyane en se disant, tiens, ça va permettre de régénérer le travail sur le territoire, parce que depuis qu'on a abandonné l'esclavage, eh bien effectivement, les gens ont quitté les plantations et ne savent plus très bien quoi faire.
Oui, donc la doctrine qui inspire cette conduite est la doctrine du sol libre. La notion que si on met le pied sur le sol de la France...
Mmh. Et de la Guyane en l'occurrence.
Qui est la Guyane aussi, on devient libre. Donc ça devient une sorte d'excuse de saisir des Africains captifs pour les amener en Guyane et les faire travailler. Parce qu'à cette époque, les affranchis se regroupent en famille loin des propriétés des Blancs. Pour vivre librement. Donc, il y a une vraie recherche de nouveaux main-d'œuvre.
Alors, on sait très bien combien les historiens de la Guyane ne veulent pas que l'on présente cette terre comme étant une terre de relégation. Néanmoins, ce que vous nous montrez, c'est quand même que entre 1790 et 1880, qui sont les termes de votre livre « Liberté, liberté, trahie », Miranda Spiller, la plupart de ceux qui arrivent sur les territoires guyanais, dites-vous, sont dépourvus de toute capacité légale. Alors, ça peut être des immigrants, certes, des esclaves, ou encore des détenus, des criminels politiques. Enfin, en gros, ce ne sont pas des citoyens de plein droit, comme il peut y en avoir sur le territoire métropolitain.
Oui, mais c'est vrai que comme sujet, ils sont des constructions du droit, dans le sens que de ne pas avoir des droits est aussi une conséquence du droit. Donc ça, c'est un grand thème du livre. C'est aussi, il faut insister sur l'importance de l'arrivée de ces gens sur l'histoire de la colonie même après l'esclavage. Et ça, leur présence est aussi importante pour l'histoire des affranchis et de leurs droits. Normalement, on évite d'évoquer l'histoire des bagnards à côté de l'histoire des affranchis, mais je trouve que les droits des affranchis sont mis en danger à cause de la grande présence du bagne.
Oui, et puis vous vous posez la question de savoir pourquoi, effectivement, beaucoup d'entre eux ne savent pas très bien quoi faire une fois qu'ils sont libérés. Doivent-ils rester sur ce territoire-là? Doivent-ils rentrer? Quel est le rapport entre leur présence dans cet exil momentané pour certains d'entre eux et puis leurs droits et leur liberté à y rester d'une certaine façon, Miranda Spiller?
Ce qui était très important pour moi en écrivant le livre était d'insister sur la violence et la coercition éprouvée par des gens soi-disant libres. Donc soit on parle des gens affranchis de l'esclavage, soit on parle des condamnés libérés qui ont déjà purgé leur peine, mais qui sont détenus en Guyane comme exilés et qui, comme les autres condamnés, n'ont pas de droit civil et comme je montre, sont normalement détenus sous un état de siège à partir des années 1850. Donc, et cet état de siège devient le droit normal de la Guyane à propos de ces condamnés libérés. Et je trouve que le traitement des forces à libérer, comme on disait à l'époque, vraiment, ça nuit énormément à l'expérience des affranchis dans cette colonie, dans le sens que, par exemple, le régime des décrets qui est censé être le régime du nouvel empire de la France devient le régime en Guyane parce que quand même il y a le bagne là et donc la Martinique et la Guadeloupe devient sous un régime différent que la Guyane à cause de la présence des prisonniers.
Oui, parce que tout de même ce que vous montrez c'est que ça n'est pas un territoire comme les autres, ce territoire guyanais, qu'il est régulièrement pensé comme étant différent des autres, y compris des autres colonies caraïbes de la France, et que cela la met toujours en porte-à-faux d'une certaine façon. Alors certes, il y aura la départementalisation à partir de 1947 qui changera théoriquement la donne, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est de montrer comment cette forge du 19e siècle, cette fabrication de ce territoire guyanais au 19e siècle, est encore même un peu peut-être à l'œuvre encore aujourd'hui dans la vision que l'on peut se faire de ce territoire-là, territoire de relégation, et même vous posez la question de la patrimonialisation et des débats autour de la patrimonialisation du bagne de Cayenne qui sont assez vifs justement en Guyane, Miranda Spiller.
Il est vrai que mon expérience de la Guyane même était importante dans la conception du livre. Je me souviens d'avoir visité la ville de Saint-Laurent, de Maroni, qui est le site patrimonial de là-bas. Et c'était là où j'ai eu l'inspiration de travailler sur le droit, parce que d'abord, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'espace public dans la ville. Or, de la pelouse au centre du camp de transportation. J'étais là pour le 11 novembre. J'ai vu des soldats français qui ont fait leur cérémonie du 11 novembre sur la pelouse du camp de transportation. Donc, ça me frappait comme très bizarre. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur la notion d'une ville sans citoyens, qui n'a pas d'espace public parce qu'il n'y a pas de vie publique. Également, j'ai remarqué lors de cette visite qu'il y avait une entrée au camp de la transportation marquée libéré à côté de condamné. Donc, j'ai commencé à travailler sur la notion des libérés comme une catégorie pénale.
Et puis, on peut faire des parallèles avec aujourd'hui, non seulement parce que Nicolas Dupont-Aignan souhaite un Guantanamo français sur ce territoire de la Guyane pour les djihadistes revenus de Syrie, mais aussi parce que vous y décrivez comment on installe assez rapidement sur la frontière avec le Brésil, des troupes qui sont chargées de surveiller cette frontière, qui est évidemment transparente, ou presque, puisque c'est la forêt, sur le territoire de l'Oyapock, par exemple, et on se dit qu'on voit très régulièrement à la télévision française des reportages sur ces gendarmes, justement, qui sont chargés aussi aujourd'hui d'empêcher l'immigration venant du Brésil par l'intermédiaire de ce territoire-là, et on se dit, tout compte fait, c'est une obsession, pourrait-on dire, française que cette question, est-ce qu'on les laisse entrer, est-ce qu'on ne les laisse pas entrer ces personnes qui voudraient venir travailler en Guyane parce que leur salaire il serait un peu meilleur que celui qu'ils connaissent au Brésil, Miranda Spiller.
Il est vrai que, par exemple, on est tenté de penser de la Guyane comme très loin de la France, mais en se mettant sur la frontière, on se rend compte que finalement c'est la France parce que les moyens de répression sont justement français. Et comme une fois en Guyane, j'ai pris un avion et je me suis trouvée parmi des gens qui étaient en train d'être déportés par la France vers le Suriname. Là aussi, on voit que les moyens de répression passent par le droit français. Et également, la notion qu'il faut empêcher des gens d'entrer dans ce pays vient du fait que tout le monde est français et attaché à l'État-providence de la France.
Merci Miranda Spiller. On aura vraiment beaucoup d'intérêt à vous lire justement pour ce tissage très fin que vous faites justement de la question d'histoire du droit, parce que c'est au cœur de votre propos, et de l'histoire générale, justement, à propos d'un territoire spécifique que nous connaissons peut-être moins bien que d'autres territoires de la nation française, à savoir le territoire guyanais. Ça s'appelle Liberté, Liberté trahie, faire et défaire des citoyens français, Guyane 1780-1880, et c'est publié chez Alma Éditeur. Merci encore.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Toujours quand l'étoile au nuage meurt, toujours quand il fente le soir, passe au galop d'un noir cheval, un homme noir. Ah, dans la nuit quand s'éteignent les feux, pourquoi toujours ce galop furieux ? Toujours quand les branches craquent très fort, quand mer les barques sombres, par les chemins toujours ce bruit, l'homme galope dans l'ombre. Ah, le voilà qui s'éloigne et puis c'est encore lui qui revient, toujours lui.
Nuit de grand vent, une musique de Reynaldo Hahne, écrite à Clermont en Argonne au printemps 1915 sur un texte de Robert Louis Stevenson, pour nous introduire à la deuxième partie de cette émission avec vous, Victor Massé-Dépinay, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et avec notre invité Jean-Paul Amade, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, puisque vous avez conçu avec d'autres ces cartes IGN de la Grande Guerre, qui sont des cartes qui reproduisent le front en l'occurrence. Alors vous avez participer avec à la grande carte, pourrait-on dire, celle qui reproduit l'ensemble du front, mais il y en a spécialisé sur la bataille de la Somme ou encore sur la bataille de Verdun. Vous êtes biogéographe historique, ça s'appelle, c'est une discipline que je ne connaissais pas personnellement, la biogéographie historique. Qu'est-ce que cela veut dire et en quoi justement ce travail de cartographie vous a-t-il intéressé et correspond-il à votre formation, votre travail de géographe d'une certaine façon ?
La biogéographie historique est une composante de la biogéographie, de la géographie s'intéressant aux formations végétales, aux communautés animales. Biogéographie historique parce que le géographe qui construit un raisonnement sur des paysages, sur des organisations territoriales, fait appel pour comprendre la genèse, l'évolution, la dynamique de ces paysages à l'histoire. Donc c'est un raccourci disciplinaire.
Victor.
Oui, Jean-Paul Amade, vous avez travaillé en particulier sur les forêts de la Grande Guerre. Alors là, on a déployé un peu sur notre plateau les cartes faites par l'IGN avec la mission centenaire des fronts de 1914, enfin de la guerre de 14, et en particulier celle de Verdun. Vous vous intéressez beaucoup à la forêt de Verdun. J'aimerais vous interroger sur ce qu'on voit sur ces cartes d'aujourd'hui. Elles ont été faites, il faut le dire, avec des fonds de cartes actuels, c'est-à-dire le paysage tel qu'il est aujourd'hui, sur lequel on a plaqué, on a dessiné, tracé les lignes de front, leur évolution, et aussi tous les lieux de mémoire. La forêt, aujourd'hui, à Verdun ou ailleurs, a recouvert le champ de bataille, mais d'une certaine façon, a quand même un rôle de témoin et de sauvegarde d'un patrimoine de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette articulation entre couverture
La question s'est posée à la réalisation de ces cartes, du fond à utiliser. La vocation de ces cartes, que l'IGN appelle des cartes événements, est d'abord d'offrir une découverte d'un territoire actuel à des visiteurs, qu'ils soient touristes, qu'ils soient, comme on disait il y a quelques décennies, des pèlerins.
Ou randonneurs.
Qu'ils soient des randonneurs. Qu'ils pratiquent différents outils de la découverte, donc des cartes sur lesquelles des repères actuels sont présents. La question était importante parce que si on considère la région de Verdun, en effet, en 1914, le paysage est loin d'être celui que la carte représente en son fond, puisque sur le territoire de la carte, il est indiqué forêt domaniale de Verdun. Elle n'existait pas en 1914. Elle représente à peu près 9000 hectares et il n'y avait que 3000 hectares boisés avant la guerre.
Oui, mais cette forêt est la butte témoin, pourrait-on dire, justement, de ces combats, d'une certaine façon, puisqu'une grande partie de cette forêt vient du fait qu'on a fait cette zone interdite, d'une certaine façon.
C'est ça. Je prends la place d'un visiteur qui se dit, mais comment, en allant sur le terrain, et sans beaucoup d'informations, comment a-t-on pu se battre dans un espace boisé tel qu'il est là ? Il est évident que la compréhension de la dynamique du territoire fait appel à des outils par obligation, comme les cartes anciennes, les photographies, montrant que le terrain n'était pas entièrement boisé comme aujourd'hui. Alors, cela est un problème, enfin, est une question intéressante, parce que la forêt, au titre de patrimoine, est une forêt née de la guerre. Mmh. Et le titre de l'ouvrage auquel vous faites référence,
Les forêts de la Grande Guerre, Histoire, mémoire, patrimoine.
C'est une des facettes de la forêt. C'est la forêt d'après la guerre. Mais il y a aussi les forêts pendant la guerre, les forêts d'avant la guerre, ce qu'elles sont devenues, quels rôles elles ont joué.
Victor Massel.
Oui, et c'est ça qui est très intéressant dans votre ouvrage, cette chronologie entre les forêts qui ont été préparées véritablement, disons, 50 ans avant la Première Guerre mondiale. On a commencé à faire des forêts, à les aménager, puisqu'une forêt n'est pas qu'un espace naturel. Ça, c'est une des grandes considérations de la biogéographie. Mais ces forêts ont été préparées, et ces forêts ont été aussi véritablement des champs de bataille utilisés pendant la guerre, avec d'abord des aménagements pour faire des percées, des visées, etc. Et puis évidemment le déboisement massif et sans aucune considération de durabilité.
C'est comme ça. La forêt étant une forme d'occupation du sol qui, par sa structure même, produit une élévation par la couverture arborée. D'abord, un mur sur la lisière forestière et un couvert quand on est d'en haut. Donc, c'est une structure qui permet à la fois de se protéger à l'intérieur, de cheminer le long des forêts, des lisières, d'y installer, s'il le faut, des tranchées à l'extérieur, en ado de la forêt. Et donc, de fait, pendant une guerre de mouvement, mais surtout pendant la guerre de position, la forêt est devenue un acteur de la guerre. Et elle est, après la guerre, devenue ou perçue comme un outil de cicatrisation. Et là, le caractère mixte que vous évoquiez de la forêt, dimension naturelle, dimension culturelle, sociétale ou historique, a joué.
Et c'est là où, effectivement, par exemple, le travail tout à fait remarquable de certains photographes, il y a très longtemps, Éric Poitevin ou d'autres depuis, sur ces couverts forestiers dans lesquels on trouve des casemates, dans lesquels on trouve des constructions, etc., peut paraître étonnant aux spectateurs d'aujourd'hui ou aux touristes d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, à l'intérieur de ces forêts, on trouve toutes les constructions qui étaient celles des lignes de front, d'une certaine
façon. C'est tout à fait étonnant, et une image peut être amenée, ce que l'on fait actuellement dans la forêt des Landes. Cette forêt qui a été détruite par la tempête, pour une grande part, sur plusieurs centaines milliers d'hectares, et qui aujourd'hui, sur des espaces totalement dénudés, est reboisée. Et l'on voit comment les forestiers boisent ces espaces dénudés en mettant tous les 2 mètres ou 3 mètres des plants. C'est ce qui s'est fait sur le champ de bataille à partir de 1929, où 28 millions à peu près de plants ont été installés, mais sans que les autorités aient nivelé le champ de bataille. Ce qui fait que la forêt a fossilisé d'une certaine façon
le terrain
et l'a transformé,
les courbes de
a
niveau.
Créé un linceul. Mais le terrain est resté dessous. C'est ce qui fait la valeur patrimoniale de cet espace.
Victor. Mais cette reforestation ne s'est quand même pas faite sans débat, puisque il s'agissait quand même, on le sait maintenant que le terrain n'a pas été nivelé et que la forêt joue le rôle de linceul. Mais à l'époque, on a quand même dit, ça va recouvrir le champ de bataille, ça va rendre invisible tout ce qui s'est passé. Dans votre livre, vous citez Clémenceau qui dit, quelqu'un qui vient ici voit une belle forêt paisible, on sous-estime donc nos souffrances et donc nos vertus ou quelque chose comme ça.
Oui, alors deux thèmes sont intéressants là. C'est celui de l'évolution parallèle d'une société sortant de la guerre, morale, politique, économique, intellectuelle. Et d'un autre côté, les dynamiques spontanées ou naturelles sur le terrain. Des sortes d'évolutions qui sont synchroniques et qui, de temps en temps, se recouvrent. Mmh. Vous avez, en 1914, au mois de septembre 14, Jean Galtier-Boissière, qui, sur le champ de bataille de la Vaumarie, décrit les paysages qu'il rencontre, où la terre se transforme petit à petit, où les morts constellent le sol, et où, à côté des morts, apparaissent des fleurs, et il fait une relation assez directe entre le coquelicot et la mort. Ces fleurs, ces plantes, ces espèces sont utilisées, enfin, ont été pour la mémoire utilisées, le bleuet pour la France.
Bien sûr, le coquelicot, les poppies pour les
Anglais. Ça signifie, et beaucoup de témoins consignent, que la terre, le sol, quelle que soit sa destruction, ne cesse pas d'évoluer parce que, biologiquement, la vie reste là. C'est peut-être moins, ce n'est plus la vie humaine, mais c'est la vie animale ou végétale. Et donc, pendant ces années d'attente après 1918, la construction mémorielle, patrimoniale déjà, et surtout du pèlerinage sur les champs de bataille, se couple d'une évolution dynamique des formations végétales. Et à un moment, il faut bien croiser les choses, que deviendront les paysages du champ de bataille si on les laisse évoluer naturellement.
Et alors ça, par exemple, c'est une question qui doit tarauder les élus locaux, par exemple, et le regard porté par la nation tout entière, ou les pèlerins qui viennent du monde entier pour pouvoir venir voir ces paysages de la guerre, puisque effectivement, ils sont héritiers, les élus locaux, de ce patrimoine vivant et évolutif que vous nous décrivez, Jean-Paul Amat. Doivent-ils commencer à déboiser? Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine qui n'est pas un patrimoine construit comme un patrimoine de pierre et de terre?
Que fait-on de cette zone rouge définie après la guerre, de ces 120 000 hectares? Eh bien, c'est en effet un très long, un très dur, un très profond débat qui est sociétal et dont les acteurs sont d'une part les anciens combattants à travers les fédérations d'anciens combattants, les élus, qui par exemple comme à Verdun, le maire de Bras-sur-Meuse, le courtier, est aussi un des responsables de la création des structures menant à la création du ministère des régions libérées. Donc se pose cette question du devenir ces espaces. C'est une histoire longue que celle de cette zone rouge qui conduit finalement à la fin des années 20 à définir des territoires, les uns réservés à la construction des édifices mémoriels, nécropoles, ossuaires, etc. Une autre catégorie de sol destinée à être boisée ou reboisée. Et une troisième catégorie destinée à être rendue
à la culture.
Utilisation antérieure à la guerre, dont l'agriculture.
Mais si j'ai bien compris, ces zones destinées à être boisées ou reboisées, elles-mêmes changent quand même d'utilité ou d'utilisation. La forêt de Verdun et les forêts avoisinantes ont été reboisées avec des conifères, essentiellement des pins. Si on vous lit, vous parlez beaucoup des essences ou des espèces végétales. Il y a beaucoup de photos de fleurs, d'arbres dans votre livre « Les forêts de la Grande Guerre ». Et depuis 40 ans, on remplace, c'est en cours, tous ces pins par des feuillus, essentiellement des hêtres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que c'est l'enjeu de remplacer une forêt de conifères par une forêt de feuillus?
Alors,
dans le contexte
les enjeux
de la mémoire.
Il s'agit de comprendre, de mettre en phase les décideurs de l'organisation de l'espace. Pourquoi avoir planté en résineux? C'est un choix économique, c'est un choix sylvicole qui est assumé par les gestionnaires, par l'administration des eaux et forêts. Il y a plusieurs facteurs explicatifs. Le fait, par exemple, que 1917 voit, avec la révolution soviétique, la rupture des approvisionnements en résineux venant du golfe de Botnie et venant de la Baltique. Ça s'arrête. Ensuite, c'est que, à tout moment, il y a des paradigmes culturels, intellectuels, scientifiques. À ce moment-là, en 14, on considérait que les résineux sont de bonnes espèces pour cicatriser les territoires, tout en sachant déjà que le résineux en plaine, dans l'Est, en plaine, les résineux, le pin, comme vous le citez, le pin noir, l'épicéa, ne sont pas tellement dans leur milieu naturel. Et alors, dans les années qui suivent, disons dans les années 50, dans les années 60, on voit se réintroduire dans les peuplements résineux des feuillus qui arrivent comme ça, naturellement. Alors des chênes apparaissent, surtout des hêtres,
des érables, des aunes aussi.
Oui, qui avancent et puis hop, ils s'installent. Oh, on se dit, les forestiers se disent, mais après tout...
Est-ce qu'il y a une malédiction du résineux?
Est-ce qu'on pourrait revenir ou installer d'autres espèces plus naturelles? Et à partir de 1974, on vient au feuillu. Ce qui conduit alors à une nouvelle lecture du paysage, à un nouveau type de paysage qui fait qu'aujourd'hui, le feuillu remplace le résineux.
Victor?
Ces forêts une forêt, c'est vivant. Le sol n'a pas été nivelé, les débris de la guerre sont encore là. Est-ce que ça va rester encore longtemps? Enfin, les débris vont rester, mais est-ce que le sol ne va pas finir un jour ou l'autre par se niveler? Est-ce qu'on sait quand? Est-ce que c'est une préoccupation qu'on a?
La question est en cours de réflexion dans des recherches universitaires appliquées. De nouveaux outils sont apparus pour la connaissance des milieux, en particulier le LIDAR, donc on utilise beaucoup maintenant en archéologie, etc. Le LIDAR qui permet de s'affranchir.
Il est à l'œuvre, je crois, sur les pyramides de Khéops.
Il est à l'œuvre sur les 10 000 hectares de la forêt de Verdun. Il permet de s'affranchir de la couverture végétale et de retrouver les formes topographiques au sol qui étaient celles de 1918 ou 20 lorsque la forêt est née. Et là, nous avons accès maintenant à des sources géoréférencées, d'ailleurs très localisées, sur ces témoignages. Témoignages qui font maintenant de Verdun, par exemple, ou des régions de la guerre sur lesquelles les forêts se sont étendues après et ont préservé, des sites patrimoniaux majeurs que n'ont pas d'autres secteurs du champ de bataille, en particulier dans le nord et en Picardie ou autre, parce que là, les terres ont été pour la plus grande partie rendues à l'agriculture.
Voilà, alors si on veut en savoir plus, votre ouvrage majeur s'appelle « Les forêts de la Grande Guerre, histoire, mémoire et patrimoine ». C'est publié aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, Jean-Paul Amat. Et puis, effectivement, si on veut aller se promener sur ces territoires qui ont été des champs de bataille, eh bien, on dispose de ces cartes, soit la grande carte du front, soit des cartes spécialisées, Somme ou Verdun, par exemple, que l'on peut donc emmener avec soi. Un dernier mot, Jean-Paul Amat.
Un dernier mot. Ces cartes montrent aussi la filiation qu'il y a dans la cartographie. Vous avez sur la carte de Verdun un extrait du fragment d'un plan directeur du fort de Douaumont au 5000e. C'est ici là toute l'histoire de la
cartographie. Les anciennes cartes d'état-major.
Les anciennes cartes et l'IGN est née du service géographique de l'armée. On a une filiation familiale du dépôt de la guerre sur que portent ces cartes.
Et la filiation, vous allez la faire remonter encore un peu plus loin, en l'occurrence Victor Massé-Lépinay, dans l'émission de demain, le documentaire que vous avez réalisé avec Anne Fleury.
Oui, on va la faire remonter au 18e et même au 17e siècle avec les Cassini et cette grande histoire de la carte des Cassini qui s'étend en gros de Louis XIV à l'Empire et même après l'Empire à la Restauration.
Là, vous avez une gravure qui est de Coquart avec une représentation de la méthode de Cassini pour observer avec des objectifs comme celui-là, vous voyez, avec une direction qui observe la Lune, qui est en phase puisqu'on voit un croissant.
On a l'habitude à l'IGN de découper la cartographie en plusieurs étapes. Il y a l'astronomie qui a été faite un peu par le premier Cassini, qui était avant tout un grand astronome. Il y a eu la géodésie ensuite par le deuxième Cassini, donc les triangles. Le troisième a plutôt axé son effort sur la topographie. Et le quatrième va terminer le travail avec la partie cartographie, donc faire graver sur cuivre tous ces relevés de terrain dont il avait hérité. Et ils ont impulsé dans toute l'Europe, hein, puisqu'il y avait déjà ce côté science internationale qui passe au-dessus des frontières, même quand les pays sont en guerre, il y avait une collaboration des scientifiques du monde entier.
L'intérêt de cette carte Cassini, c'est de donner une représentation précise de ce qu'était le territoire de la France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les clochers, les moulins, les ponts, les fermes, les prieurés, les abbayes, et j'en passe, sont précisément situés sur les plaques de cuivre qui ont servi à générer les feuilles de Cassini.
Il fallait traduire à la plume et au pinceau la réalité du terrain, de façon à ce que le graveur qui, lui, n'allait jamais sur le terrain, mais travaillait en atelier, puisse interpréter tout ce qui avait été collecté comme information. Donc ce sont vraiment des œuvres d'art, et d'ailleurs, quand j'ai scanné la totalité des minutes qui sont dans les collections d'IGN, j'ai été impressionné par la qualité graphique de ces documents.
effectivement de magnifiques documents qu'on découvrira demain dans votre documentaire autour de l'invention de cette carte du XVIIIe siècle, la fameuse carte des Cassini, parce qu'il n'y a pas qu'un Cassini qui y a travaillé en l'occurrence.
Non, il y en a quatre, le père, le fils, le petit-fils et l'arrière-petit-fils. Donc, comme je le disais, entre Louis XIV et la Révolution, le moment où l'État s'accapare tout ce travail qui avait été commandé par Louis XV en disant « bon, bah ça maintenant c'est pour nous, c'est pour ça que c'est rentré au dépôt de la guerre » et que c'est aujourd'hui à l'IGN où on a pu aller consulter non pas les cuivres qui ne sont pas à Paris, mais toutes les minutes, c'est-à-dire les relevés de terrain, qui sont des documents magnifiques. On pourra en voir quelques-uns sur le site.
Merci. Donc, c'est un documentaire qui a été réalisé par Anne Fleury. On se retrouve mercredi pour évoquer, en l'occurrence, la grande exposition qui s'est ouverte il y a quelque temps au Mucem à Marseille autour de Made in Algeria et sur la cartographie coloniale, en l'occurrence. Ouais. Et puis, jeudi, nous plongerons dans le Moyen-Âge, comme nous le faisons souvent dans la Fabrique de l'Histoire. Nous nous intéresserons à la cartographie médiévale avec vous, Victor Massé de Lépinay. Merci et à la semaine prochaine. Je rappelle que nous allons parler en première partie de cette émission
demain,
de liberté, liberté trahie, faire et défaire des citoyens français, Guyane 1780-1880, de Miranda Spiller chez Alma Éditeur, et également du travail de Jean-Paul Amat et en particulier des Forêts de la Grande Guerre, publié aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Bruno Gagnère-Fontaini était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur ces pages, même si ce n'est pas très simple et nous essayons de le rendre plus simple possible. Vous pouvez nous écrire aussi sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, et désormais, vous le savez, la Fabrique de l'Histoire a également son compte Twitter, c'est @FabriqueFC. FabriqueFC, c'est le compte Twitter de la Fabrique de l'Histoire.